RFI. La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, bienvenue dans La Danse des Mots qui présente la dernière série d'émissions consacrée aux langues régionales et nous nous intéressons pendant 3 émissions à la langue occitane qui n'est pas la plus facile à appréhender. En tout cas, c'est certainement la plus contrastée des langues dites régionales. Ça a été la plus importante des langues de France, en plus du français. Et aujourd'hui, c'est la moins représentée. Alors attention, quand je dis la plus importante, bien entendu, il faut l'entendre de manière numérique, par le nombre de locuteurs. Ça a été la seule langue qui réellement a concurrencé le français et qui lui a fait peur d'ailleurs. Et la langue occitane, par ailleurs, s'est étendue sur une aire géographique extrêmement vaste, tout le sud de la France actuelle. Alors, elle est moins excentrée, moins isolée que la Bretagne, et l'Occitanie, et j'entends par là l'aire du parler occitan, parce que le mot d'Occitanie désigne aussi aujourd'hui une région administrative, l'Occitanie, en tout cas, désigne tout un pays. Et l'histoire de cette langue, elle est très différente de celle des autres langues régionales. D'abord, dans les grandes villes d'Occitanie, on a commencé à parler le français assez tôt, en tout cas dans les classes sociales aisées. Et l'érosion de la langue s'est faite beaucoup plus précocement que pour les autres. Mais d'abord, est-ce qu'on peut parler d'une langue occitane? L'occitan d'Auvergne et du Limousin, est-il celui des Pyrénées? En tout cas, D'Artagnan n'avait pas l'accent de Tartarin. Et c'est avec ces interrogations en tête que Lucie Bouteloup et moi, nous nous sommes rendus à Toulouse, à l'hôtel de région, dans la grande salle d'assemblée, où nous avions rendez-vous avec Patrick Sauzet et Patrick Roux. Patrick Roux est conseiller régional délégué à la langue et à la culture occitane. Patrick Sauzet, lui, est universitaire, professeur de linguistique occitane. C'est d'abord à lui que j'ai demandé si on pouvait parler d'une langue occitane ou si c'était un non-sens. Est-ce qu'il y a une multiplicité de langues qui appartiennent à la même souche? J'ai demandé à Patrick Sauzet de nous orienter dans cette sorte de labyrinthe.
Toutes les langues à l'état naturel, à l'état spontané, sont dialectalisées, surtout quand il y a un espace un peu vaste. Et l'occitan couvre effectivement un espace assez vaste. Nous sommes ici à Toulouse, donc dans la région Occitanie, mais l'occitan, ça couvre plus que la région Occitanie. Donc ça va d'Isard aux Pyrénées, ou des Alpes aux Pyrénées, comme l'a dit Mistral, c'est-à-dire de l'Atlantique à la Méditerranée. Donc il y a un espace vaste, et cet espace vaste, il serait assez étonnant qu'il n'y eut pas de variation. Donc il y a de la variation effectivement, mais la variation existe aussi très fortement, par exemple dans le basque, qui est une langue qui a un territoire beaucoup plus réduit, mais qui, entre la Soule et la Biscaye, présente des variations énormes. Et le breton aussi, vous étiez récemment en Bretagne, entre Vannes et Quimper, ou le Léon, il y a de grandes différences aussi, et c'est naturel. Donc l'occitan, effectivement, a une pluralité, mais en même temps, l'occitan a une fortunité, et on peut dire en un sens que la langue est là avant le dialecte.
Vers l'occitan. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là?
C'est-à-dire que l'occitan a été perçu comme une langue au Moyen-Âge, sans se poser de questions. Et l'étude, le morcellement, est une affaire plutôt de linguistes. Je suis linguiste, donc je connais un peu la tribu. Et les linguistes se sont mis à découper et à faire des distinctions fines, surtout au XIXe siècle, en se rendant compte qu'il y avait des changements phonétiques très précis qui pouvaient distinguer telle ou telle zone. Donc il y a une science qui a produit une idée de la multiplicité, à juste titre, de la précision, mais en même temps, qui est allée, en se savant quelquefois, contre une appréhension immédiate qui était celle de l'unité. L'occitan a eu beaucoup de noms à travers le temps. D'abord, il s'est appelé Romance, parce que c'était le roman par opposition au latin. Donc, il y avait la langue romane. Et il suffisait de dire Romance, ça suffisait. Et on disait roman en zone d'huile, et ça voulait dire français. Et on disait Romance à Toulouse, ou à Bordeaux, ou à Clermont-Ferrand, et ça voulait dire occitan. Parce que c'était le problème du rapport au latin. Et donc, nous sommes appelés donc, d'abord romans, puis des termes. On s'est appelé provençals, qui avait un sens très global, provençal au Moyen-Âge. Provençal, provençalais, ça désignait plus ou moins toute la langue. Donc, c'est un terme. Il y a Limousin aussi, parce que les premiers grands poètes occitans ont été limousins, donc Vers de Ventadour, etc. Eble Ventadour, qui n'a pas ses œuvres, mais son nom. Donc, qui ont été donc, des limousins. Et donc, le mot Limousin, plus que catalan, a servi de nom à la langue globalement. Et puis, ce mot occitan qui est assez récent, parce que la région s'appelle Occitanie maintenant ici, une région s'appelle Occitanie, une région qui prend ce nom d'une langue. C'est déjà assez rare. Mais l'Occitanie s'appelle Occitanie à cause de l'Occitan, le nom de la langue. Et la langue s'appelle Occitan à cause d'elle-même.
Alors, à cause d'elle-même, justement, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette fameuse Languedoc ? On dit que c'est Dante qui aurait le premier distingué un certain nombre de langues d'après les façons de dire oui, hein, oil, hoc ou si. C'est attesté, cette affaire-là ?
Oui, c'est vrai, tout à fait. Dans le traité sur la poésie, le traité poétique de Dante, et il écrit en latin et il parle donc trois langues issues du latin, et donc une où on dit si pour dire pour l'affirmation, ou une où on dit will, qui fait oil, oui en français maintenant moderne.
C'est-à-dire le nord de la France actuelle.
La France actuelle, d'accord. Et puis une où on dit hoc. Mais il ne l'a pas inventé en fait, ça. Il ne l'a pas inventé, et on trouve au XIIIe siècle, dans des textes occitans, l'utilisation du terme hoc pour représenter la langue. Et même dans plusieurs textes de Troubadour, on peut trouver l'usage du mot hoc. Apparemment, c'était une manière justement de désigner la langue. On n'a pas de terme naturel qui se donnait.
Au départ, c'est simplement le démonstratif latin, quoi.
C'est le démonstratif latin, hoc, ceci, qui veut dire oui. Le latin, comme beaucoup de langues, et comme encore par exemple l'irlandais moderne, n'a pas de mot pour dire oui. Et pour dire oui, on dit, on reprend le verbe et on dit affirmativement ou négativement, comme en chinois aussi. Mais donc les langues romanes ont inventé un mot pour dire oui. Bon, c'est intéressant, mais ils l'ont inventé de manière différente. Mais, point de vue littéraire, l'occitan littéraire, les troubadours, écrivent à peu près tous la même langue. Alors, on peut débattre sur le rôle des scribes dans l'unification, etc., de la transmission, mais il reste que cette langue est, et même s'il faut relativiser les choses, c'est pas une codification comme on peut la faire d'époque moderne avec l'imprimerie, les dictionnaires, etc., mais c'est une langue unifiée au départ.
Et donc, c'est une langue unifiée quand elle est écrite. Puisque là, vous évoquez les troubadours, écrits ou pas, mais disons transmises, et transmises de façon relativement stricte. En effet, il pouvait y avoir une transmission orale, c'était le cas bien souvent. Quand je dis écrite, je veux dire fixée, disons.
Oui, écrit fixé, mais fixé pas seulement comme une langue. Parce que les troubadours, leur poésie était chantée. Qui dit chantée, dit donc oralisée, et devant un public qui la comprenait. Et en plus, avec une circulation, c'est ça qui est intéressant, c'est que les troubadours ne sont pas le produit de Toulouse ou d'une ville occitane. C'est un réseau. Ils circulaient entre un réseau de cours qui couvrait l'Aquitaine, le Languedoc actuel, qui couvrait aussi la Catalogne actuelle, qui couvrait la Provence, etc. Et donc l'Auvergne, bon, et qui avait aussi des projections en Espagne ou en Italie. Donc c'est une langue de cours, mais de cours au pluriel. Et donc cette circulation, donc relativement homogène dans des cours, suppose derrière la unification littéraire une forme d'unification sociale.
Patrick Roux, vous qui êtes conseiller régional et délégué à la langue et à la culture occitane, vous vouliez intervenir ?
Oui, parce que cette question de l'unité de la langue est intéressante, parce que c'est une question en réalité qui est très hautement politique. Le fait que soit couramment dit que l'occitan, contrairement au basque, au breton, soit une langue riche de variétés, y a autre chose qu'on dit de l'occitan, hein, c'est que pendant longtemps, on a dit que le breton et les gens qui étaient bretons et qui parlaient breton savaient qu'ils parlaient breton, les corses savaient qu'ils parlaient corse, les alsaciens qu'ils parlaient alsacien, etc. Les occitans ne savaient même pas, vous savez, qu'ils parlaient occitan. Ils pensaient qu'ils parlaient patois. Moi, mes parents, par exemple, étaient persuadés que la langue qu'ils parlaient, le nom, d'abord, ils pensaient pas que c'était une langue, mais effectivement, patois, avec toute la vulgarité que ça peut supposer, et effectivement, qu'ils s'appelaient que patois. Voilà. En réalité, on ne peut pas ne pas voir dans cette question-là le regard du dominant sur le dominé.
Et ça n'arrive qu'à une certaine période.
Tout à fait, j'imagine effectivement que lorsque le roi de France Henri IV parlait en occitan, les sujets d'Henri IV à ce moment-là vraisemblablement ne pensaient pas qu'il parlait en patois, voilà. Et donc effectivement il y avait...
Lui il parlait en béarnais.
Il disait gascon, quoi, voilà. Puisque on voit que l'occitan dans son histoire a eu différents noms en fonction des périodes, hein. On a parlé du provençal, on a parlé du gascon, etc., etc. Mais je voulais en venir là. D'abord, l'occitan effectivement connaît quelques variétés dialectales, hein. Il y a sept grands dialectes de l'occitan, le gascon, le provençal, le limousin, l'auvergnat, etc., le languedocien le plus central. C'est le cas de la plupart des langues, c'est le cas de toutes les langues de la planète sur laquelle nous habitons.
Alors, Patrick Sauzet, j'aimerais bien revenir à ce que vous évoquiez tout à l'heure. Vous parliez des cours, justement. Est-ce que la langue occitane a été de temps en temps la langue de cours particulière et donc liée à des pouvoirs particuliers qui n'étaient pas le pouvoir central du roi de France, qui essayait de tout unifier autour de l'île de France et de la langue qu'on y parlait, mais qui étaient des langues qui avaient un rapport étroit avec une certaine autorité politique.
Le modèle occitan, en un sens, au Moyen-Âge, c'est l'idée d'une langue qui n'est pas étrangère, ni au pouvoir, ni aux élites sociales du pays, aux élites politiques, à la grande noblesse. Mais cette grande noblesse, que ce soit la cour de Poitiers, Aquitaine, ou que ce soit la cour de Toulouse, que ce soit les cours de Rodez, que ce soit des cours à Marseille, en Provence, etc., ou en Catalogne, ces différents lieux de pouvoir utilise l'Occitan, mais l'Occitan n'est pas la redescente sur le territoire de ces lieux de pouvoir.
Mais comment les langues d'oc ont-elles été visées par le pouvoir royal ? Quel est le rapport politique entre le roi de France et les langues du sud de la France ?
Il est vrai que le texte mentionne explicitement le latin. Bon, après ça, il y a un point important qu'il faut faire, c'est que quelles étaient les langues qui, avant le XVIe siècle, avaient un usage administratif et qui n'était pas le français. Donc il y avait effectivement une présence du latin un peu partout.
Omniprésence du latin, on peut dire. Hein.
Pas omniprésence dans les actes municipaux, juridiques. La seule autre langue qui était utilisée administrativement, c'était l'occitan, qui était utilisée en Auvergne, en Provence, etc., en Languedoc, plus ou moins, plutôt plus à Rodez qu'à Toulouse, pour faire des choses comme ça, par exemple. Mais des chartes, des textes juridiques dans une langue autre que le latin ou le français, il n'y a que l'occitan. Et ensuite, au XVIe siècle, ce qui se joue, c'est que le français devient aussi la langue sociale des élites du pays d'oc. Et donc, il y a accompagnant le montée du pouvoir royal de l'État, etc., on peut développer les raisons de cela, mais il y a ce changement-là. Et du coup, on change de langue de cité. La langue de cité devient aussi le français. Le français devient la langue des bourgeoisies occitanes, des élites occitanes. Et on a un commentaire de Villers-Cotterêts en occitan. En 1555, on a ce qu'on appelle les textes joyeux à Toulouse.
Que sont ces textes joyeux à Toulouse, alors?
Les textes joyeux ont été pris pour des facéties d'étudiants qui, en fait, ont été écrits par des parlementaires. Las num parelios recetos per falas fenos tindentos, etc. Qui sont des textes attribués, de manière facétieuse, à des femmes. C'est plus ridicule que des femmes qui font les lois, par exemple.
Hein. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous venez de nous citer, oui, là non, traduisez, Patrick Sauzet.
Les recettes sans égales pour rendre les femmes sonnantes et trébuchantes, etc. Et aussi un texte, aussi les ordonnances, la ordonnance des femmes de Toulouse. Donc, des textes attribués, fictivement, et de manière dérisoire, carnavalesque, un peu, à des femmes. Mais ces textes-là, ce que je retiens d'important, c'est que ces textes, donc on est en 1555, l'impression, donc autres rédigés un petit peu avant, peu après.
C'est 15 ans après Villers-Cotterêts, à peu près.
Peu de temps après Villers-Cotterêts. Donc ces textes-là reprennent le formulaire des textes juridiques occitans, de manière dérisoire. C'est-à-dire qu'ils saluent, en un sens, le retrait de la scène de l'occitan juridique. Les gens avaient conscience de ça, conscience d'un retrait d'une langue civique, d'une langue occitane publique qui couvrait le niveau du pouvoir politique. Et donc, Villers-Cotterêts a été donc un moment important qui a... C'est pas un coup de tonnerre isolé, c'est la bonté du pouvoir royal, le roi François Ier, qui en fait, à l'époque, français premier, en même temps que François Ier. François français, c'est la même chose. En occitan, on dira Francis.
Thank you. La danse des mots à Toulouse, la danse des mots qui s'occupe donc des langues occitanes, de la langue d'oc ou des langues d'oc. On a fait, grâce à vous, Patrick Sauzet, une plongée dans l'histoire de cette langue depuis longtemps. Avec vous, Patrick Roux, puisque vous êtes conseiller régional, j'aimerais bien qu'on fasse une histoire plus du 20e et du début du 21e siècle et qu'on essaye de faire un état des lieux des gens qui parlent aujourd'hui occitan et de la façon dont cette langue a quand même perdu beaucoup de terrain en un peu plus d'un siècle. Comme toutes les autres langues régionales en France d'ailleurs.
Oui, y compris la langue régionale de Paris, le français, qui perd du terrain chaque jour face à l'anglais. L'occitan aujourd'hui, je crois que ce qu'il faut poser immédiatement, c'est le fait que la transmission familiale a disparu. Voilà. Je suis probablement la dernière génération qui aurait pu bénéficier de la transmission familiale. Ça n'a pas été fait parce que, comme beaucoup, nous étions marqués par la honte de la langue.
Quand vous étiez tout jeune, on parlait du patois.
On parlait du patois, on en parle souvent encore, enfin ça m'écorche toujours autant l'oreille, mais on l'entend, voilà. Donc la transmission familiale, effectivement, a rompu, elle a cédé le pas, et aujourd'hui, je crois qu'effectivement, il y a un effort particulier qui doit être mené en termes de politique publique sur la question de l'enseignement, parce que il n'y a pas de raison biologique, il n'y a pas de raison naturelle que cette langue cesse. Alors, je le dis aussi parce que une langue qui recule, une langue qui disparaît, c'est quoi? C'est une langue dont les locuteurs décident d'arrêter de la parler. En fait, il suffit que demain les Occitans décident de parler occitan pour que la langue elle reparte.
Enfin, parfois, on décide pour eux, hein, quand même. Alors, il n'y a pas qu'eux qui décident.
On a beaucoup décidé pour eux, mais il leur appartient aussi, par exemple, effectivement, de pouvoir décider de la reparler. Alors, c'est évidemment, ça suppose un ensemble de phénomènes. Hein. C'est-à-dire que il faut, et parce que je pense que ça n'est pas terminé, il faut bousculer avec force les représentations qu'il y a sur cette langue et qui sont bien souvent des représentations négatives. Comme sur, en fait, la plupart des langues qui ne sont pas des langues d'État, hein, bon, dans ce pays. Et particulièrement en France, où nous avons une représentation tout à fait invraisemblable, en fait, de cette richesse qui est la nôtre.
Alors, Patrick Roux, si on revient à des considérations plus quantitatives, disons, en 1914, est-ce qu'en Occitanie, la langue principale de loin, c'est l'occitan? Est-ce que c'est la langue, disons, de tout le monde ou de presque tout le monde, même si une langue de l'élite et une langue du pouvoir est bien sûr le français?
Presque tout le monde parle occitan en 1914. D'ailleurs, certaines élites, non, hein, effectivement, sur les grandes villes comme Toulouse, la bourgeoisie parlait déjà français, mais il y a d'autres endroits ou dans des centres urbains où la bourgeoisie se moquait de ceux qui parlaient déjà français. Hein. Je vois chez moi en Périgord, par exemple, puisque je suis né en Périgord, à Périgueux, les gens se moquaient de ceux d'aquel est-ce qu'est seigneuré, bon, de ceux qui se faisaient les petits seigneurs là, en parlant français, quoi, voilà.
Patrick Sauzet. Pardon, j'interromps Patrick, excuse-moi, mais il y a un verbe intéressant en occitan, on dit « franciman déjà ». Le franciman. Franciman ou le franciman. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, d'une part, le français, comme on disait à une époque, on disait Birbeck, ethnique. Le français qui n'a toujours parlé qu'une langue d'huile, ou la langue d'huile comme sa langue d'origine. Et puis, il y a aussi le franciman, c'est l'occitan qui parle indûment français. C'est-à-dire qu'à une époque où le français était réservé aux élites, l'homme du peuple qui se met à prétendre et à parler français indûment. Éventuellement, quand il a trop bu en particulier. Donc il y avait une association en occitan, on dit parler français, ça veut dire être ivre. C'est-à-dire que les gens qui parlaient français, c'est ceux qui avaient trop bu et qui, du coup, s'est relevé par plein, bon, grand nombre de chroniqueurs, ça. Donc effectivement, il y avait une censure, d'excès de francophonie. Et effectivement, dans la grande référence de la grammaire occitane, qui est le livre de Jules Ronchat, qui s'appelle Grammaire historique des parlers provençaux, parce que comme tu l'as dit, on a appelé provençal, il parle du provençal de Toulouse, du provençal de Bayonne, etc. Donc, c'est très, pour lui, le provençal, c'est tout l'occitan. On a dit gascon à d'autres époques pour l'ensemble de l'occitan, pour des raisons qu'on pourrait aussi éclairer. Donc, il y a cette domination variable, mais toujours unitaire dans cette allée cohérente. Et effectivement, Ronja, dans sa grande grammaire,
contre les occitanophones, première fois, parce qu'il n'y a pas de sens linguistique en France. Est-ce qu'on vous demande dans le recensement quelle langue parlez-vous ? Non, donc on a des évaluations variables, qui sont, on peut y revenir. Donc Ronja compte les habitants et dit tout le monde parle. Il fait le compte des habitants comme des locuteurs, en enlevant quelques pourcentages de fonctionnaires qui viennent de l'extérieur, qui ne savent pas la langue.
Alors il faudrait. Patrick Roux. Oui, il faudrait affiner, c'est quelque chose qui est complexe, une réponse quantitative. C'est quelque chose qui est complexe parce qu'il n'y a pas de politique publique de l'État qui s'intéresse à cette question-là. Donc effectivement, les données sont difficiles à agglomérer. Ce qu'on peut dire, c'est que sur une population de 15 millions d'habitants à peu près, donc sur l'espace, je parle de l'espace linguistique occitan qui intègre la Val d'Aran dans l'État espagnol et les vallées occitanes d'Italie. Sur à peu près 15 millions d'habitants, 1 million de gens d'Occitan, 1 million d'Occitans sont à des niveaux divers. Il faudra affiner également en termes de niveau de langue. Voilà, c'est pas la même chose. Et puis c'est différent de tenir une conversation, d'être en capacité de tenir une conversation courante ou de tenir une discussion philosophique, quoi. Hein, bon, mais 1 million à peu près de gens d'Occitan sont effectivement concernés par la langue occitane.
Aujourd'hui, vous voulez dire.
Aujourd'hui, tout à fait. Alors, on est passé effectivement d'une situation où 1914, oui, vous le disiez, tout le monde parle occitan, y compris ceux qui franchissent Mendej, parce qu'il parlait français, mais il savait encore parler occitan, y compris quand il faisait du commerce, il fallait bien pouvoir. Vous savez, en 1914, c'est marrant, hein, parce que Clémenceau lance des emprunts d'État pour accompagner la guerre. Et en Occitanie, les emprunts d'État ne vont fonctionner que quand les affiches seront en occitan, en fait.
Ce qui veut dire que les gens parlaient, mais qu'ils lisaient l'occitan.
Ah ben ils lisaient l'occitan. On écrivait à ce moment-là, on écrivait l'occitan avec le graphème du français, quoi. Voilà.
Et donc, parce que l'occitan, on n'apprenait pas à le lire à l'école, puisque l'école, par définition, en France, elle était francophone.
Tout à fait. On n'apprenait pas à le lire, et puis on n'apprenait pas à le parler non plus, quoi. Puisqu'on était même interdit parfois de le parler dans la cour de l'école, même. Hein, voilà. Donc, oui, la situation a bien changé, effectivement, de ce point de vue-là. Et la Première Guerre mondiale, en fait, est probablement la raison majeure, plus sûrement que toute loi prise, la Première Guerre mondiale a fait reculer l'Occitan. Hein. Les gens vont partir à la guerre et vont revenir, effectivement, par l'homme français, quoi. Ça, c'est un élément. Et puis après, les Occitans, qui sont des gens intelligents, vous savez, ont fini par comprendre que ce qu'on leur imposait correspondait à un modèle effectivement politique, et que l'usage de la langue française serait la question clé de la promotion sociale. Et donc ils se sont mis à parler français, et il aurait fallu probablement être idiot pour ne pas le faire.
Hein. Subirano en tan de mil anados caulin sonari de demainado sas cantos encantados sus mudamo de hennota.
Bien sûr, on sait toujours qu'il y a eu un coup d'arrêt aux langues régionales en France au moment de la Première Guerre mondiale, et très souvent on dit qu'il y a eu un deuxième coup d'arrêt après la Deuxième Guerre mondiale, et d'autres facteurs, avec en particulier un développement des médias, et donc des médias francophones, médians extrêmement importants. Vous
radio,
avez l'impression.
Voilà.
Oui, oui. Ah ben c'est sûr que la radio n'a pas été très favorable à la vie des langues régionales, c'est sûr.
Oui, c'est ça. Effectivement, les trois époques des rapports inégaux entre, enfin, d'abord égaux, puis inégaux entre l'occitan et le français, c'est que après un temps d'occitanophonie totale, après un temps donc de français des élites, il y a un temps du français de masse qui est inauguré par l'école, qui a diffusé, il y a puis par l'armée, puis par les médias, etc. Et effectivement, les chiffres, on apprenait ça. La France était encore à 50% rurale dans les années 50. C'est-à-dire qu'il y avait, parmi les pays européens, et donc en un sens, cette ruralité importante a protégé les langues régionales, a protégé l'occitan en particulier. C'était aussi une langue nécessaire au savoir. Un agriculteur qui restait agriculteur traditionnel apprenez en occitan. Ton prédécesseur Rémi Pêche, qui était conseiller régional et qui était de la région de Narbonne, de Vinassan, quand il allait avec son grand-père tailler la vigne, son grand-père lui parlait occitan, parce que son grand-père ne savait pas transmettre la taille de la vigne autrement qu'en occitan. Donc il y avait cette nécessité. Et après, quand on s'est mis à apprendre l'agriculture dans les collèges d'agriculture, ça s'est fait différemment.
Il y a eu un phylloxéra de la langue.
Exactement, il y a un phylloxéra de la langue, il y a un glyphosate qui est épandu en grande quantité sur l'occitan, et à faire ça, on s'étonne qu'il ne se transmette pas. Bon, actuellement, ceux qui transmettent, ce sont ce qu'on appelle les néolocuteurs. Des gens qui ont appris, parfois avec des bases variables de transmission familiale, mais qui ont fait le choix de la langue. Et ceux qui ont fait le choix de la langue la transmettent. Et donc ça, c'est important. Il y a eu cette enquête de la région Midi-Pyrénées sur la pratique de la langue, à laquelle nous avons participé à l'université à définir les questionnaires, etc. Et donc, plusieurs chiffres, bon, on pourra en parler, mais un élément important... Quand même 4%, je crois, ont répondu en occitan à l'enquête. Ça veut quand même dire qu'il y a 4% des gens qui sont capables de répondre au téléphone à une enquête. Donc, beaucoup de locuteurs traditionnels, justement, se sentiraient mal à l'aise pour parler à quelqu'un qui parle d'occitan standard. Je connais ceux qui ont posé des questions. C'est des étudiants d'université, donc ils ont appris un occitan universitaire en grande partie, et ils arrivaient à se faire comprendre de leurs interlocuteurs à faire l'enquête en occitan. Donc, il y a quand même... Une pratique, bon, moi je transmets à ma fille et d'autres collègues, et je parle avec elle exclusivement en occitan.
Vous parlez exclusivement occitan à votre fille ?
Exclusivement, depuis qu'elle est née. Et voilà, et ça se passe très bien. Et par ailleurs, elle parle assez correctement le français aussi, etc. Il n'y a aucun problème, enfin, etc. Et d'autres langues aussi. Donc, et je ne suis pas le seul. Il y a des collègues, des étudiantes, la fille de notre ami Patrice Poujade, etc., qui est étudiante en linguistique, qui fait de la linguistique en occitan très naturellement, etc. Donc, l'occitan se transmet effectivement encore. Actuellement, mais effectivement, il ne se transmet pas dans les mêmes groupes sociaux qui l'ont perdu, parce qu'effectivement, l'anecdote amusante, amusante et triste en même temps, en Haute-Bigorre, je parlais avec un collègue linguiste, Jean-Louis Massour, etc., d'aller voir des docteurs d'Occitan de cette région-là, et l'un de dit, oui, qu'il y aurait un instituteur qui longtemps avait persécuté, quand il était enseignant, le patois, il revient voir les anciens élèves, il dit, alors parlez-moi un peu, ce magnifique gascon, etc., que vous parlez, il dit, mais tu te fiches de moi, quand j'étais élève, tu me tapais sur les doigts parce que je parlais patois, maintenant tu que je te parle. Donc, effectivement, il y a ça ne marchera pas comme ça. On ne dira pas aux gens, parlez occitan, braves gens. On donnera l'exemple d'une langue qui fonctionne. Et c'est ça que nous essayons de faire à l'université ou dans l'enseignement de l'occitan que tu as évoqué tout à l'heure.
Patrick Roux.
Il y a une publicité que tout le monde connaît. Cette publicité qui se termine avec la phrase « Et que s'appelle Rio, Kézak ». Tout le monde sait de quoi on parle. Même si on ne comprend pas l'occitan, on parle du nom.
Alors, traduisez-nous ça.
Et elle s'appellerait Kézak. Cette eau qui appartient au groupe Nestlé. Et dont la publicité a été proposée en 1995 par un publiciste qui est reconnu comme étant un des plus grands publicistes de l'histoire de la publicité mondiale, Ridley Scott, un Américain. Et qui a imposé véritablement l'Occitan dans cette publicité. Elle a été refaite régulièrement. Nestlé, qui n'était pas très favorable à mettre de l'Occitan, vous imaginez bien, en 1995, a absolument tenu à le garder aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on voit que cette singularité, elle est absolument indispensable. Et donc l'Occitan est un élément qui aujourd'hui doit être regardé non pas comme auparavant, c'est-à-dire sur les aspects le français pour la promotion, l'Occitan, le patois pour le passé et la tradition. Au contraire, aujourd'hui, il peut être, y compris pour ceux qui pensent à la concurrence acharnée entre les territoires, hein, il peut être y compris une arme utile.
Eh bien, merci beaucoup Patrick Roux, merci beaucoup Patrick Sauzet de nous avoir parlé de l'histoire et de l'actualité de cette langue occitane ici à Toulouse, à l'hôtel de région où nous étions reçus pour cette dernière série d'émissions en partenariat avec la DGLFLF, c'est-à-dire la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France. C'était donc La Danse des Mots, Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Yvan Amar, et demain nous nous occuperons des problèmes de transmission et d'enseignement de l'occitan.